Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, c'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes et vous accueille pour 2 heures d'expertise du monde de vos placements. 2 heures qui commencent comme chaque jour, vous le savez, par une virée sur les marchés boursiers grâce à Antoine Larigauderie qui est installé sur son perchoir de la salle de contrôle du CAC 40 au siège de Euronext à La Défense. Suit cette première heure de cotation. Alors que se dit-on sur les places européennes ce matin ?
C'est vraiment la journée de la marmotte qui se répète encore. Un CAC 40 qui commence sur une tendance un petit peu indécise, une légère baisse qui nous ramène en direction des 6400 points, un petit peu au-dessus quand même à 6426. On est en repli de 0,24%, mais toujours le même scénario qui se répète depuis 3 jours. Alors que globalement, on a Wall Street qui se tient bien dans l'espoir de voir les élections de mid-term apporter un petit peu d'alternance, peut-être un peu plus de maîtrise budgétaire du fait des avancées républicaines, hein, sans doute, mais qui sont beaucoup moins forte qu'attendue. Alors ça a jeté un petit peu de trouble sur le sentiment de marché concernant Wall Street. Maintenant, l'Europe avait toute latitude pour emboîter le pas et pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'a pas de catalyseur pour nous mener plus haut. Le seul impact de toute cette agitation politique américaine, on peut le sentir sur les taux d'intérêt qui sont quand même largement calmés. Le taux d'intérêt, disons, américain recule en direction des 4%. On a un euro-dollar qui est remonté à parité face au billet vert. Donc ça, c'est les principaux effets. Sur les actions, on a vu une belle montée de Wall Street, mais des futurs beaucoup plus indécis désormais, une tendance beaucoup plus mitigée en Asie. Et en Europe, on cherche le catalyseur. Alors, il pourra venir demain avec les chiffres de l'inflation américaine. Alors là, pour le coup, ce sera de nature à faire réagir le marché de manière beaucoup plus prononcée, à la hausse comme à la baisse, aussi bien le marché obligataire que le marché actions. Donc ça va être un catalyseur. Mais dans l'attente, on est sur un marché extrêmement technique, on ne prend pas de grosses positions et on reste vraiment sur des points d'équilibre. À noter que le CAC 40 a cessé de sous-performer. En revanche, le reste des indices européens, c'était un petit peu une des dynamiques de tendance depuis le début de la semaine. On a l'Eurostoxx 50 qui perd 0,37% et moins 0,54% pour le DAX à Francfort. Donc on peut dire que Paris limite sérieusement les dégâts. Les titres qui sont bien entourés. Alors on a Carrefour qui gagne 1% à 16,44 € avec toute la transformation qui a été annoncée avec Alexandre Bompard qui était à l'antenne ce matin. Tout ça est plutôt du goût des marchés. À noter aussi Thales qui avance de 0,9% à 125,65 €. On a Téléperformance plus 0,6% à 265,60 €. L'aéronautique avec Safran plus 0,6% 114,18 € et Airbus plus 0,48 à 113,70 €. Donc vous voyez pas vraiment de préférence sectorielle en ce moment. À noter parmi les baisses, Eurofins Scientifique recule de 3% 66,26 €. On a Unibail-Rodamco Westfield moins 1,21 € à 48,22 €. Encore Vivendi moins 1,15 € à 8,43 €. À noter que les valeurs de croissance, que soit le luxe ou la techno, sont plutôt orientées à la baisse avec Hermès qui recule de 0,7%, on est à 1357 € et Worldline moins 0,98 € à 43,63 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Ipsen qui prend 2,7% à 103,90 €. Le CAC donc sur une légère baisse, un sentiment toujours indécis, on n'en sort pas, moins 0,21% 6428 points. L'euro donc à parité face au dollar à 1,0066 €. Et puis c'est toujours le froid sur les crypto-monnaies. On est à 18 100 $ pour un Bitcoin, 1257 pour l'Ether et l'XRP à 37 cents désormais.
Antoine Larigauderie et tout de suite l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est le plan de Carrefour à horizon 2026. Alexandre Bompard est venu expliquer la stratégie du distributeur ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Face à la flambée des prix, le groupe veut accélérer sur les marques distributeurs qui devraient représenter près de la moitié des ventes, mais aussi sur le discount en important un modèle développé au Brésil. On écoute le patron de Carrefour. On reviendra sur ce son du patron de Carrefour dans nos prochaines éditions. Au chapitre des résultats, l'activité de BPCE reste stable au troisième trimestre, mais le bénéfice net ressort en légère baisse, moins 3% à 1,3 milliard d'euros. En cause, la hausse du taux du livret A et les mauvaises performances des marchés. Sur les 9 premiers mois de l'année, la banque engrange tout de même 3,4 milliards d'euros de bénéfice net, en hausse de près de 7%. Nissan relève ses objectifs pour cette année. Le groupe profite d'effets de change positifs pour ses exportations grâce à la chute du yen. Le bénéfice net annuel devrait ressortir à 1 milliard d'euros. Nissan va contribuer à hauteur de 27 millions d'euros au résultat de Renault sur le troisième trimestre. Med.com est racheté par le britannique Next. Le groupe d'habillement acquiert la marque, les noms de domaine et la propriété intellectuelle du site de meubles en faillite. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Les Américains votent pour les élections de mi-mandat et la vague républicaine ne semble pas se confirmer. Les démocrates sont pour l'instant en passe de remporter la majorité au Sénat grâce à la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie face à un candidat trumpiste. À la Chambre des représentants, en revanche, les républicains sont favoris selon les premières estimations. L'économie chinoise continue d'inquiéter. Les prix à la production reculent en octobre, une première depuis 2020. En cause, la faiblesse de la demande liée aux restrictions zéro Covid. Et puis, il y a moins de milliardaires en Chine et ils sont aussi moins riches. Le pays compte 1300 ultra-riches, un chiffre en recul de 11% sur un an. C'est la plus forte baisse depuis 24 ans. Et le montant de leur fortune cumulée recule aussi à 3500 milliards de dollars, en baisse de 18%. En cause, là encore, la politique zéro Covid qui freine l'activité et la crise de l'immobilier, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve donc à 11h pour suivre cette actualité économique. Nous, tout de suite, on s'intéresse à vos placements en commençant par le monde des actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et l'on retrouve Mathias Desmarais qui nous attend chez Odo BHF. Bonjour Mathias.
Bonjour Cédric.
Merci d'être présent ce matin sur l'antenne pour évoquer GTT. D'abord, on rappelle brièvement qui est GTT. On est dans le monde du gaz naturel liquéfié.
Exactement. GTT est une société d'ingénierie donc qui est spécialisée dans la conception de systèmes de confinement pour le transport par bateau et le stockage sur terre et mer du gaz naturel liquéfié. Effectivement.
Alors, ouais, pourquoi ce choix du coup ce matin?
Alors, je mettrai trois points en avant. Tout d'abord, le management, après la publication du chiffre d'affaires T3, a confirmé ses objectifs pour l'année. Hein. On a eu une inflexion positive du chiffre d'affaires qu'on attendait. Donc, même si on se situera dans le bas de fourchette à cause de certains décalages, on va dire, de construction, aujourd'hui, on a une très bonne visibilité sur la fin d'année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous le mentionnez, le marché du GNL est structurellement porteur et devrait le demeurer dans le contexte de crise énergétique actuelle. Le gaz aujourd'hui est considéré comme une énergie de transition et donc il bénéficiera de tout un tas d'éléments, notamment le plan européen qui vise à diversifier, on va dire, les approvisionnements, notamment par rapport au gaz russe. Et donc on a une dynamique très très bonne en ce moment en termes d'entrée de commande avec un record historique atteint au 30 juin. Pour le groupe, ça c'est le deuxième élément. Et le troisième, on a deux relais de croissance importants qu'il faut mentionner à moyen terme. Tout d'abord, GTT prépare l'avenir, donc avec d'une part les objectifs de réduction des émissions de CO2 qui militent pour un développement du gaz naturel liquéfié en carburant ce coup-ci. Et deuxièmement, le marché de l'hydrogène dont tout le monde parle en ce moment avec un réel potentiel à plus moyen terme celui-là.
Bon, voilà donc pour le cadre dans lequel on évolue ce matin. Juste un mot, parce qu'on a souvent évoqué dans le cas de GTT les concurrents en se demandant s'ils allaient émerger. Il y en avait en Chine, il y en avait en Inde, il y en avait en Corée. Enfin, comment ça se passe justement sur ce point concurrentiel?
Bah, écoutez, c'est quelque chose d'aujourd'hui d'important. Effectivement, il y a des concurrents. Néanmoins, à ce stade, GTT est quand même très très bien positionné par rapport aux différents acteurs qu'on peut voir dans les autres pays. Et j'en veux pour preuve la forte augmentation du carnet de commandes qui le place vraiment comme un des leaders sur ce marché.
Alors, un petit mot aussi de valorisation, parce que c'est intéressant de regarder le parcours des titres qu'on évoque. On est à 112,60 en ce moment sur GTT et on voit que son plus haut, il est assez récent et il est autour des 130 euros. Comment est-ce que vous voyez les choses? Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que vous nous fixez comme objectif de cours?
Alors aujourd'hui, on est sur un objectif de cours de 155 euros, hein, ce qui veut dire plus de 35% de potentiel sur le titre. Et la valorisation aujourd'hui reste relativement modeste, hein, puisque même si on se paye 17 fois le résultat brut d'exploitation 2023 et 12,5 sur 2024, rapporté à la croissance qu'on attend, on reste aujourd'hui largement inférieur à 1 en termes de multiple. Donc on a quand même une vraie perspective de croissance. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous, on vise une croissance de plus de 50% de l'EBITDA en 2023, puis 33% au minimum en 2024. Hein. Donc c'est une vraie histoire de croissance. Parallèlement, si je rajoute les deux options dont je vous ai parlé, à savoir le GNL liquéfié et l'hydrogène, c'est 10 à 20 euros supplémentaires par action qu'on pourrait voir émerger sur le titre.
Bon, donc 155 euros, ça nous amènerait loin au-dessus des plus hauts historiques du titre. Donc, recommandation d'achat signée ce matin, Mathias Desmarais. Merci beaucoup, Mathias, pour cet éclairage proposé ce matin sur ce titre GTT. Donc, objectif de cours 155 euros, recommandation d'achat sur un titre qui ce matin perd un 23% à 112,60 euros. Le tout dans un marché qui est en léger retrait pour 0,19%. Le CAC 40 qui pointe en ce moment. Donc, en légère baisse, il s'affiche à 6427 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et pour causer macroéconomie, on rejoint Bastien Dru qui nous attend chez CPRAM. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Les États-Unis, bien évidemment, sont à la une à l'heure des midterms. Les dernières projections montrent qu'il n'y a pas de tsunami ni même de vague républicaine. Alors, on va attendre les chiffres définitifs et ne pas faire de politique politicienne avec vous. C'est pas votre genre de beauté. Mais on va faire un peu de politique budgétaire appliquée au résultat de ce vote. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, justement, les implications en termes de politique budgétaire, elles dépendent quand même un petit peu du résultat des élections et sur ces élections, on va encore avoir ça va mettre un petit peu de temps pour qu'on ait les résultats définitifs parce qu'il y a eu un dépouillement qui prend un peu de temps dans certains États. Puis surtout, il y a un siège pour le Sénat en Géorgie pour lequel il devrait y avoir un deuxième tour qui se déroulera en décembre. Donc, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Alors, malgré tout, il semble que les démocrates puissent augmenter leur avance, leur majorité, puissent améliorer leur majorité au Sénat. Ça va être un vrai soulagement pour la Maison-Blanche en termes de nomination de juges fédéraux, d'éventuels juges de la Cour suprême, d'éventuels gouverneurs de la Fed. Là, on parle vraiment que de politique pure, on ne parle pas de politique budgétaire. Quand on regarde la Chambre des représentants, c'est encore franchement indécis, hein, à l'heure où on se parle. Je crois qu'on ne peut pas vraiment conclure. Le cas le plus probable, malgré tout, c'est que les Républicains reprennent la Chambre des représentants. Et la conclusion de tout ça, c'est que Biden et la Maison-Blanche n'auront pas les mains libres pour faire passer leur agenda, notamment tout ce qui concerne des plans budgétaires pour la santé, pour l'éducation, pour le climat, pour l'énergie. Donc Biden et la Maison-Blanche n'auront pas les mains libres pour faire passer tout ça. Il ne devrait pas y avoir de hausse d'impôts sur les deux années qui arrivent. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un changement majeur, parce que les démocrates avaient déjà une majorité extrêmement faible au Sénat et à la Chambre des représentants, et les marges de manœuvre étaient déjà très très faibles pour les démocrates sur les deux dernières années, quoi. Donc, en termes de politique budgétaire, il y aura sans doute vraisemblablement peut-être moins de dépenses, mais il y avait déjà pas forcément de marge de manœuvre qui était très importante au niveau de la Maison-Blanche sur les deux dernières années.
Bon, s'il y a moins de dépenses budgétaires, ça veut dire moins de carburant en quelque sorte injecté dans l'économie, ça va faire le bonheur de la Fed ?
Alors, effectivement, le fait que la politique budgétaire ne devienne pas plus expansionniste, c'est plutôt de nature à favoriser un ralentissement de l'inflation. Mais je dirais quand même que pour la Fed, les élections, c'est une préoccupation de second ordre. Hein. Là, le plus important de toute façon, ça reste l'évolution de l'inflation à court terme, dans les prochains mois. Et justement, on aura le chiffre d'inflation d'octobre qui sera publié demain. Et on s'attend à un léger ralentissement de l'inflation totale, de l'inflation sous-jacente également, qui devrait permettre à la Fed de poursuivre sur la voie d'un pivot avec des hausses de taux directeurs qui seraient moins importantes dès le mois de décembre.
Voilà donc quelques idées à avoir et on va suivre bien évidemment les derniers résultats, chiffres définitifs qui émailleront les prochaines heures pour connaître le fin mot de l'histoire de ces midterms américaines. Merci beaucoup Bastien Dru, donc depuis CPRAM, le marché parisien pour le moment qui reste en léger repli, -0,3%, 6421 points.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc, Cœur de Roi.
Bonjour Cédric.
Aujourd'hui, on reparle crédit immobilier et taux d'intérêt avec un mois de novembre déjà bien entamé et... une hausse des taux qui s'accélère.
Oui, bon, c'était prévisible, mais ça va mieux en le disant quand même. Hein. Voilà. Alors, c'est le courtier Vous Financez qui a fait les comptes. Toutes les grilles reçues pour ce mois de novembre affichent des hausses de taux. Alors, on est sur des hausses de 0,30 points en moyenne. Alors, 0,30 points de hausse moyenne, donc début novembre, alors qu'on a déjà eu 0,20 en octobre. Alors, je fais multi-calcul, c'est très compliqué, mais donc ça fait quand même un demi-point de plus en l'espace d'un petit mois et demi, quoi, même pas un mois et demi. Alors, résultat, aujourd'hui, la plupart des banques, elles affichent des taux supérieurs à 2%, quelle que soit la durée. Voilà, vous allez me voir venir. Alors, le courtier nous dit même qu'il a vu revenir des taux à 3% sur les durées les
déjà
plus longues. Ouais, déjà. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis 2016, quand même. Mm-hmm. Donc, bon, voilà. Alors, concrètement, ces hausses de taux, parce que là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est vraiment beaucoup. Alors, vous savez très bien, mon idée, c'est que c'est pas tant que ça, compte tenu de l'inflation. Pour autant, ça représente forcément des capacités d'emprunt en moins. Donc là, sur un an, la hausse des taux, elle correspond à une perte de 30 000 euros de capacité d'emprunt. On emprunte moins parce qu'évidemment, le coût du crédit, il augmente à mesure que les taux augmentent. Et alors, ce coût du crédit, il a même doublé sur un an. Pour un crédit de 250 000 euros, il est passé de près de 40 000 euros à plus de 75 000 euros quand même.
Et au-delà du coût du crédit, la conséquence est aussi que le taux d'usure, qui avait pris un petit peu d'altitude, redevient inadapté.
Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé du taux d'usure.
On l'aime, ce taux d'usure.
On savait qu'il allait vite revenir. Bon, là, ça y est, en un mois, clairement, tout le bénéfice de la hausse du taux d'usure, il est perdu, complètement effacé. On le rappelle, ce taux d'usure, il est passé à 3,05% pour les crédits au-delà de 20 ans. C'était une hausse de 0,48 points. Là aussi, vous allez me voir venir. Et comme je vous l'ai dit, en un mois et des pépettes, on a augmenté le taux moyen de 0,50. Concrètement, ça veut dire qu'on a complètement effacé. Le gain. Donc, le courtier Vous Financez nous dit que maintenant, on a de nouveau des blocages. Du coup, ils en profitent pour interpeller les pouvoirs publics de nouveau, en rappelant quand même que, comme ce taux d'usure n'est revu que tous les trimestres, ça veut dire que là, on est tanké avec la même situation problématique jusqu'au 1er janvier prochain. Donc, ça va de nouveau coincer. On rappelle que pour ceux pour qui ça coince, aujourd'hui en particulier, ce sont évidemment les emprunteurs les plus âgés. Alors attention, je dis les plus âgés, mais au-delà de 40 ans, on considère déjà qu'on est âgé. Ça fait mal à moi, à vous, Cédric, à tout le monde, mais voilà. Parce que quoi ? Parce que vous allez payer une assurance de prêt plus élevée et que donc du coup, dans votre taux global, ça va forcément vous pénaliser sur le taux d'usure et forcément vous amener souvent à dépasser ce taux d'usure et donc à pas obtenir votre crédit. Donc si vous êtes un peu plus âgé que la moyenne des emprunteurs et si vous avez des pépins de santé, là aussi vous êtes. Mais a priori, au rythme où vont les choses, tous les emprunteurs vont être concernés. Je ne vais pas vous faire le sketch. Aussi des jeunes, des riches, tout le monde.
C'est-à-dire que tout le monde va se faire refuser un prêt ?
Alors, justement, j'en profite et je termine ma chronique là-dessus. Je vous rappelle le site lancé par le courtier CAFPI. Allez-y si vous nous écoutez et que vous avez vous aussi des refus de prêt. Comme son nom l'indique,
refusprêt.fr. On peut documenter.
Exactement. Et c'est très intéressant.
Ça ne va pas vous faire gagner un crédit ?
Non, mais alors, non seulement vous allez trouver des conseils si vous vous êtes vu refuser votre prêt, mais surtout, en fait, l'idée, c'est de centraliser. Et ça fait un mois qu'il existe, justement, pour peser auprès de la Banque de France et de justifier avec des exemples de dossiers très précis des gens qui se sont fait refuser leur crédit, justement notamment à cause du taux d'usure, pour voir si à moyen long terme on pouvait enfin revoir le mode de calcul de ce fameux taux d'usure.
Vous voudriez contemporanéiser le
contemporanéiser.
Taux d'usure.
De toute façon, j'adore.
Merci Marie.
C'est pas mon truc. En temps réel, quoi, toi.
Et on vous propose ce matin, Marie,
de partir.
Ouais, de découvrir un certain style d'immobilier. Je mets des guillemets, les bateaux. Bonjour Valérie Huvé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, fondatrice et directrice de River Coach. J'ai raison d'avoir mis des guillemets à immobilier quand on parle de bateaux ?
Oui, parce que vous, en fait, un bateau est un bien meuble.
Voilà.
Donc, il y a des règles qui sont identiques à l'immobilier, mais il y a des petites nuances.
Alors, on va rentrer dans le détail et vous allez nous détailler tout ça pour que chacun prenne bien en compte cette histoire-là. C'est un investissement ou pas, d'abord, d'acheter un bateau, une péniche ?
C'est un investissement comme dans l'immobilier. Pour des familles qui veulent s'installer, qui veulent acheter un bien immobilier, c'est un bon investissement parce que ça reste beaucoup moins cher que l'immobilier, en fait. Il y a une vraie différence de prix. On est entre, grosso modo, moins 30 à moins 50% du prix de l'immobilier.
Y compris à Paris, par exemple.
À Paris, alors ça dépend de
quand je dis à Paris,
de la localisation. Ça dépend de la localisation.
On ne peut pas se mettre au pied de la tour Eiffel.
Mais il y a une vraie différence, en fait.
Okay. Oui, mais parce que vous avez...
Marie va peut-être trouver un
bateau. Non, parce que justement, en fait, effectivement, c'est le bien en lui-même qui va vous coûter moins cher. Mais en revanche, il y a tous les à côté qui, là, pour le coup, sont des frais supplémentaires par rapport à l'immobilier classique.
Comment ça se passe,
par rapport à un appartement lambda, oui. Mais à partir du moment où vous avez des extérieurs, comme une maison avec un jardin ou un appartement avec une terrasse, vous avez plus d'entretien, en fait.
Oui, mais là, par exemple, vous êtes obligé de payer une espèce de location pour que votre péniche reste à quai. Je crois qu'il faut sortir aussi le bateau. Redites-nous un petit peu.
Moi, la location, je l'assimile à des charges de copro. Dans un immeuble, vous pouvez avoir des charges de copro importantes. Donc, la COT, la location d'anneau, en fait, correspond à peu près à ça. En revanche, les sorties de bateau, je les assimile dans un immeuble. Vous avez une cage d'escalier à refaire, un ravalement de façade, un ascenseur.
Sauf que là, vous les assumez seuls, les frais, pour le moment.
Ah oui, mais comme dans une maison.
Là, ce sont des choses qui sont obligatoires de faire, les sorties de bateau tous les 10 ans, conformité tous les 10 ans. Bah, ça se provisionne, si vous voulez. Donc, alors qu'un ravalement de façade ou quelque chose dans un immeuble, ça peut vous tomber dessus comme ça, en fait. Oui. C'est le syndic qui décide de... Là, c'est quelque chose qui se provisionne. Après, ça a un coût. C'est de l'ordre de 6 à 10 000 euros. Pour le carénage, pour l'expert, s'il y a des réparations, ça peut être plus. Ouais. Mais
aujourd'hui, ça se passe comment ? Il y a des agences, donc du coup, on appelle ça comment ? Mobilières spécialisées, des agences batelières. Comment ça se passe ?
Ben, on fait le travail d'une agence immobilière, hein, mais même plus, parce que moi, j'accompagne les gens de A jusqu'à Z et au-delà, si besoin. Et quand les gens me rappellent 2 ou 3 ans après pour savoir si on a des entreprises ou s'ils sont perdus dans leurs papiers ou si on est toujours là, en fait. On est, et puis moi, ça fait 22 ans que j'habite sur l'eau, donc la personne que je vais installer, c'est pas juste un client que j'ai comme ça, c'est un futur voisin et il y a quelque chose qui se passe sur l'eau, en fait. Hein, c'est vraiment un mode, on est des...
Donc, on se met en recherche, on s'adresse à des agences entre guillemets spécialisées.
C'est mieux de s'adresser à des agences spécialisées.
On trouve le bateau, notre coup de cœur, c'est ça. Et donc, on rachète le bateau.
On achète le bateau, oui.
Et l'anneau, parce que moi, si je compare avec la plaisance, avec le nautisme, chacun reste propriétaire de sa place de bateau. Alors, quand on vend le bateau, c'est pas forcément avec la place.
On achète le bateau. On n'achète pas la place. C'est comme quand vous vendez une voiture, le vendeur raye la carte grise, l'acheteur demande une nouvelle carte grise. C'est exactement le même principe sur un bateau, en fait. Donc, on vend le bateau, la mutation du bateau est faite, et après, on redemande une nouvelle COT. En revanche,
COT, c'est le droit d'être...
L'emplacement, oui. Ouais. Avant chaque vente, on s'assure que l'administration va bien redonner une nouvelle COT.
Oui, parce que là, sinon, si on a le bateau, mais qu'on peut rester nulle part, c'est embêtant.
C'est embêtant. Et en général, nous, on ne vend que des bateaux avec des emplacements. Et donc, avant chaque vente, on a un avocat, moi je peux le faire, mais je préfère quand même que ce soit des juristes qui le fassent, interroge l'administration, que ce soit VNF ou Aropa, sont les deux grosses administrations qui régissent la Seine à Paris et autour de Paris. Et on leur écrit et ils nous répondent, pas de problème. Et s'il y a un feu orange, on regarde ce que c'est. Ça peut être un papier qui manque, ça peut être une conformité qui n'a pas été terminée. Donc on essaie de régler les choses, on règle les choses afin que la vente se fasse dans un cadre...
Et donc là, vous parliez de la Seine, mais c'est valable aussi à Bordeaux, c'est valable aussi à Nantes, c'est valable à Rouen.
De la même façon.
À Avignon, je pense à un ancien collègue qui a décidé de changer de vie et qui vit à Avignon sur une péniche, justement.
Il y a quelques bateaux à Avignon.
Ouais. Mais du coup, moi, ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir son permis bateau ?
Ouais, c'est
idiot, mais en fait,
non. En fait, vous
pouvez... permis fluvial d'ailleurs.
Si vous naviguez sur la Seine, vous avez besoin d'avoir un permis fluvial. Si vous ne naviguez pas, vous pouvez habiter un bateau sans avoir de permis.
Mais comment ça se fait si on a besoin de le bouger pour X ou Y raison du coup ?
Alors, le bouger, c'est pas X ou Y. Vous avez deux sortes de bateaux, hein, des bateaux navigants et des bateaux non navigants. Donc, les bateaux navigants, vous pouvez vouloir bouger pour votre plaisir, et auquel cas, là, il faut effectivement avoir son permis, ou alors prendre un marinier à la retraite. Ils sont en général ravis de faire un petit tour. Les seules contraintes pour bouger le bateau, c'est d'aller au chantier, en fait. Donc, c'est ou un pousseur ou un remorqueur qui vient vous chercher. Sinon, vous avez aussi un dock flottant qui peut.
C'est ça, on en a vu certains là. Sur la Seine.
Là, je viens de sortir mon bateau de l'eau. Il est venu sur place. Il nous a monté. En fait, c'est un dock qui s'immerge sous le bateau et qui sort le bateau de l'eau. En fait, donc ça dépend de l'endroit où vous êtes, mais le dock peut passer effectivement et vous n'êtes pas obligé de quitter votre maison.
Et la fiscalité ?
Alors, la fiscalité.
Parce que là, la fiscalité, on commence dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des frais de notaire ou pas ?
Non, vous n'avez pas les fameux droits de mutation, les presque 8% de frais de notaire. Vous avez des frais de rédaction d'actes, mais qui n'ont rien à voir avec les droits de mutation. Les droits de mutation sur un bateau, on est entre 150 et 180 euros.
Ah oui.
Ça fait. Hein, là, ça fait vraiment une différence. Hein.
Bon, donc pas de droit de notaire, enfin, pas de droit de mutation, etc.
Pas de droit de mutation.
Ensuite, il y a une taxe d'habitation.
Vous avez la taxe d'habitation, il n'y en a plus. Enfin,
ouais, mais il y en a une taxe foncière plutôt, mais enfin, c'est pas vrai. Est-ce que c'est du vrai foncier alors ?
Non, vous avez une taxe foncière.
Il y a une taxe foncière.
Il y a une taxe foncière. Alors, il y a un sujet, les bateaux qui naviguent peuvent ne pas payer de foncier. Parce qu'ils naviguent, ils prouvent qu'ils naviguent avec une vignette de navigation. Il vaut mieux la payer. Vous achetez un bateau. Vous l'habitez, vous faites des travaux ou pas, quelques années après, si vous décidez de revendre le bateau parce qu'il est, il y a un changement de vie, il est trop grand, trop petit, enfin peu importe, pour être exonéré de plus-value, il faut payer sa taxe foncière, être en résidence principale et être amarré en un point fixe. C'est les trois conditions. Donc c'est un mauvais calcul de ne pas payer sa taxe foncière. D'accord. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais.
Au régime fiscal, il y a aussi l'IFI. Du coup, est-ce qu'on est IFI ou on n'est pas IFI ?
Il n'y a pas d'IFI.
Ah.
Ouais, il n'y a pas d'IFI.
Bon, en même temps, vous nous avez dit que ça coûtait pas cher un bateau.
Ah oui,
non, mais du coup, sur un bateau.
Non, mais ce qui serait intéressant, parce que effectivement, vous nous dites que ça coûte moins cher. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Vous dites que ça fait plus de 20 ans que vous faites ce métier-là. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ?
Non. Ça fait plus de 22 ans que j'habite sur l'eau. Ça fait 9 ans que je.
Donc,
mais
donc combien du coup, ça coûte une péniche ?
Voilà, exactement. Sur le secteur, votre secteur de prédilection, si on prend un exemple très concret, combien ça va me coûter si je me lance entre la location. Enfin, l'achat de la péniche, la location, tous les frais, d'un coup, je vais devoir débourser combien pour combien de mètres carrés habitables ?
C'est compliqué de vous répondre comme ça, parce que la location de l'anneau, elle est calculée sur l'occupation du plan d'eau. Donc, vous avez un petit bateau.
Ça dépend de la taille du bateau.
Exactement. Vous avez un petit bateau, un moyen, un grand, c'est pas la même chose. Vous êtes à Paris, au port des Champs-Élysées, site exceptionnel,
les
COT ont considérablement augmenté. Vous êtes ailleurs, elles augmentent aussi, mais pas dans les mêmes proportions, si vous voulez.
Mais vous n'avez pas un exemple très concret, très précis, avec un bateau qui va faire tant de mètres de long, tant de large.
Cette fameuse taille moyenne des péniches qu'on voit.
Une Fraissinée ou un bateau à Paris. La Fraissinée, c'est une péniche qui fait 38 mètres par 5 mètres. Selon l'État, on est entre 980 000 euros et ça peut aller jusqu'à 1,5 million, 2 millions dans Paris, au cœur de Paris. Ouais. Hein. Les COT, on est grosso modo on va être, parce qu'avec l'augmentation, on va être à 1500 euros par mois.
Ah oh ouais.
Ouais. Donc ça fait un. Mais si vous faites le ratio avec les charges de copro.
Bon, juste pour terminer, rien que sur les illustrations qui sont passées derrière vous, à l'antenne, etc., et ceux qui se promèneraient sur les rives de Paris, des villes de banlieue et autres, on voit effectivement des trucs qui ressemblent encore tout à fait à des bateaux, et puis d'autres trucs qui ne ressemblent plus du tout à des bateaux. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut, ou il y a des règles, ou on peut agrandir, surélever, élargir sa Fraissinée comme on veut, ou il faut rester dans... Ou il y a des règles ?
Non, il y a des règles. À l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de mur porteur. Un bateau qui navigue est obligé de garder des cloisons étanches à l'avant et à l'arrière, mais il n'y a pas de... Voilà. À l'intérieur, vous faites vraiment ce que vous voulez. En revanche, pour faire construire des superstructures comme on peut voir sur certains bateaux, par exemple, là, c'est une superstructure. Il y a une règle maintenant qu'on doit respecter. D'accord. C'est X% de l'occupation du plan d'eau. Non, c'est pas un permis de construire, mais c'est une autorisation. Enfin, on dépose un projet ou chez VNF ou à Arropa, un projet qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas si on dépasse on dépasse la taille autorisée.
Et bien voilà, dans ce monde mobilier des péniches, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Je vous en prie.
Nous rendre visite, Valérie UV donc pour River Coach. Merci Marie.
Merci de m'avoir
vous revenez
reçu.
Tout à l'heure si on cause IMO.
Ah, toujours avec plaisir.
Bon, on se tient au courant puisqu'il n'y a pas de club IMO aujourd'hui, c'est à cause du salon Rent. Tous nos experts sont sur le pont, sans mauvais jeu de mots. Salon Rent, dans un instant, ce sont nos traders qui seront sur l'antenne. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders sont à leur poste ce matin. Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux depuis Boursicoté.com. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Ravi de vous accueillir. On commence avec vous, Gilles. Quel regard portez-vous sur cette tendance du jour? Pour le moment, on maintient les 6004, mais la tendance est baissière. Petit problème visiblement de liaison avec Gilles. On va essayer de résoudre tout ça. Mathieu, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bon, alors votre regard, Mathieu, sur ce marché, sur ces 6417 points, sur cette orientation négative?
On a toujours des marchés qui sont dans une phase d'attente qu'on peut qualifier d'optimiste, même si on est en léger repli, il n'y a rien de bien méchant. Les indices sont toujours à proximité de leur plus haut récent, le CAC autour des 6450, le DAX qui a buté tout à l'heure sur les 13007. Donc voilà, des peu d'initiatives en définitive ces derniers jours. Donc depuis l'envolée de vendredi, c'est plus passé grand-chose. En même temps, ça se comprend, puisque on attend des choses importantes. Bon, bah, les élections aux États-Unis, même si ça semble quasiment acté, et surtout l'inflation, le CPI américain demain. Quand on voit ce qui s'est passé lors des deux dernières publications, justement, je m'amusais un peu à calculer les variations. Le 13 septembre, on a eu le CAC a perdu 2,5%. Il est passé de 6004 à 6250. Et le 13 octobre, tous ceux qui étaient derrière les écrans ce jour-là s'en souviennent bien, puisqu'on a eu un contre-pied gigantesque et ça a été le démarrage de la reprise que nous avons eue ces dernières semaines, puisque le CAC a d'abord perdu 3%, puis derrière il en a repris 4,5%. Rien n'est passé de 5009 à 5007 pour terminer le soir à 5950. Donc on s'attend tous à ce que ça secoue dans les prochaines heures. Donc le CPI, ce sera demain à 14h30. Donc évidemment que ça n'incite pas à prendre des initiatives dans ce contexte-là. Sinon, sur le fond, eh bien les dynamiques, elles, de fond, restent haussières. On cherche à acheter sur des replis. On va dire que la plus proche zone à très court terme se situe autour des 6380-90. Évidemment, ce sont des petites positions au vu du contexte global, parce que bon, il y a toujours très très peu de visibilité. Et c'est là où on a une situation qui est très particulière, avec des marchés qui techniquement, graphiquement, sont assez lisibles. Mais psychologiquement, il est très difficile d'intervenir sur ces marchés-là, puisque on a un peu peur de tout. On a peur, je le disais, de l'inflation. On a peur des TQS qui sont quand même dans des configurations assez particulières. On a peur de ce qui se passe en Chine. On a peur évidemment de l'Ukraine. Donc c'est difficile psychologiquement, et c'est là où il est important d'avoir les idées claires. On a un marché qui est pas très très clair, mais d'avoir les idées claires sur ce que on doit faire. En tout cas, nous, on travaille à l'achat. On essaie de se couvrir avec les options dans la mesure du possible, justement. On a une volatilité implicite qui a diminué un petit peu. Elle était assez tendue ces derniers temps. Là, sur novembre, on a une volatilité autour de 18-19. Donc, ça permet, par exemple, de mettre en place des couvertures pour certains qui seraient acheteurs et qui souhaitent continuer dans cette idée-là, mais qui n'ont pas envie de se prendre un retour de bâton demain, par exemple, sur les chiffres de l'inflation. Ben, nous, on a proposé des petites stratégies qui coûtent pas cher, mais qui couvrent très bien. Donc, faut continuer dans cet esprit-là. On peut parler aussi de l'eurodoll qui a fortement progressé ces derniers jours. En trois jours, il a repris 3,5%. Donc, c'est extrêmement violent comme mouvement. On est autour des 1,010, un petit peu en dessous ce matin. Donc, si on franchissait cette zone des 1,010, on aurait une petite amélioration à court terme. Et nous, on a conservé comme niveau de, on va dire, de retournement pour prendre un petit billet haussier le franchissement des 1,02.
Voilà donc le regard porté par Mathieu Céron. Gilles, on vous a récupéré chez boursicoté.com. Oui. Quelle lecture faites-vous de cette tendance de ce matin ?
Alors, une tendance très neutre, hein, puisque depuis maintenant quelques jours, on oscille dans un range court terme entre 6380 et 6470 points. On a un petit peu, je dirais, une baisse des incertitudes et des inquiétudes surtout. On commence à voir des possibilités de sortie du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On attendait une forte volatilité liée aux résultats des mid-termes, mais bon, on n'aura pas les résultats tout de suite et il semblerait que le résultat soit plus serré que ce que l'on attendait. On est dans une phase d'attente. Les chiffres de l'inflation qui seront diffusés demain risquent d'être considérés comme un peu moins importants, à moins qu'on ait une grosse surprise ou un gros écart avec le consensus, du fait qu'il y aura un autre chiffre de l'inflation avant la prochaine communication de la Banque fédérale américaine. Donc tout cela fait que on a des cours qui consolident, donc petit range de consolidation, dans une tendance qui reste haussière. Les points d'invalidation de cette tendance haussière, ils sont relativement éloignés, puisque moi j'ai un point de retournement à 6192 points, donc on peut continuer à viser un objectif si la hausse se poursuit à 6590 points. Au niveau de mes algorithmes, on a une tendance qui est neutre, hein, c'est-à-dire que même au niveau des algos, au niveau de l'étude de probabilité, on n'a pas de gros directionnel. Donc voilà, on va un petit peu être suspendu à la politique aussi zéro Covid. On a vu qu'en Chine, hein, cette nuit, il y avait un ralentissement lié justement à cette politique. Alors est-ce que ça va s'assouplir ? Les chiffres de l'inflation demain, on verra ce que ça donne. Donc une zone d'attente, pour l'instant une zone de range. Assez peu de signaux, je dirais, directionnels, et donc un CAC 40 qui se cherche encore. Alors peut-être que les résultats des mi-termes vont débloquer des mouvements. On a un dollar index qui baisse, hein. On l'a vu d'ailleurs hier, on a eu pas mal de mouvements sur le marché des devises où on a, confirmé la baisse donc du dollar. Attention aussi aux crypto-monnaies, hein, qui retrouvent pas mal de volatilité. Voilà, au niveau de l'indice, c'est vraiment l'attente, pas, je dirais, de biais confirmé, et donc une phase de consolidation totalement horizontale actuellement.
Merci beaucoup à tous les deux, nos deux traders du jour. Mathieu Céron depuis Perceval Finance Conseil, Gilles Santacreux pour boursicoté.com. On vous retrouve tout à l'heure, Gilles. Vous suivez la séance du jour et on se reparle dans un petit peu moins d'une heure, 11h30 sur l'antenne de BFM Business. Le marché parisien donc perd 0,4%, 6415 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Carrefour veut-il faire du Leclerc ? Alexandre Bompard, son PDG, a dévoilé hier son plan stratégique 2026. Son objectif, se battre sur les prix ?
Alors, ce n'est pas le discours qui a été tenu. Le discours qui a été tenu, c'est Carrefour, c'est une nouvelle vision du commerce. Ils ont mis en avant les valeurs, ils ont mis en avant le climat, ils ont mis en avant la décarbonation, le mieux manger, des produits moins salés, des produits moins sucrés. Ils ont, dans le verbatim, ils ont voulu tuer justement la tentation d'aller comparer Carrefour à ses concurrents français, notamment Leclerc. Après, il ne faut pas se voiler la face. Évidemment, il y a un aspect guerre des prix, il y a aussi un aspect guerre des coûts, hein, pour réaliser des économies.
Du coup, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ce plan va changer pour les clients ?
Alors, pour les clients, la grande nouveauté, c'est la naissance en 2023 du modèle cash and carry, pour importer en fait une recette qui cartonne totalement au Brésil. C'est du libre service en gros, ouvert 7 jours sur 7. Vous achetez du volume en fait, vraiment des tailles familiales. Et si vous achetez votre riz par 5 ou 10 kilos, vous le paierez moins cher, par exemple, avec très peu de références, 9000 références. références en moyenne contre 40 000 dans un hyper normal et la promesse de faire entre 10 et 15% d'économie. Le premier magasin sous l'enseigne d'ailleurs brésilienne Atacadão va voir le jour en Île-de-France. Ce sera l'automne prochain, donc on verra si ça prend. Ça rappelle effectivement un petit peu le modèle de l'allemand métro, mais qui est réservé aux professionnels, ou le système de Costco, mais qui suppose un abonnement. Donc ça, c'est quand même l'une des nouveautés. C'est l'arrivée de ce modèle cash and carry sur le sol français. Et puis aussi, une stratégie très très tournée vers les marques de distributeurs, les MDD, un tiers aujourd'hui du chiffre d'affaires. Objectif arrivé dans 4 ans à 40%, mais à terme, avoir un produit sur deux qui est vendu à la marque Carrefour. Ou en tout cas, selon sous une MDD Carrefour. Mais la conséquence de tout ça, ça veut dire que dans l'alimentaire, il va y avoir 20% de produits différenciés, à terme, hein, bien sûr. Et dans le non-alimentaire, 40% de produits différenciés. Et troisième nouveauté pour les consommateurs, enfin, nouveauté, c'est visiblement jamais testé. Donc, le bouton anti-inflation sur le site web. Vous êtes chez Carrefour, vous achetez un produit. Vous allez, ce bouton anti-inflation va vous permettre de savoir si l'enseigne dans laquelle vous vous trouvez vous propose un produit équivalent, mais moins cher que celui que vous venez de choisir. Bon, j'imagine qu'on scanne son produit, qu'on a probablement un élément de réponse. Donc voilà pour les clients, un peu les éléments à retenir de ce qui a été présenté.
Un peu comme les applis qui nous disent si le produit est bon.
Oui, une sorte de comparateur interne en temps réel au magasin dans lequel vous vous trouvez. C'est ça un peu l'idée, oui.
Est-ce qu'il y a aussi l'aspect plus business du plan 2026?
Évidemment, alors, il y a un aspect purement business, réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici à 2026. Pour y arriver, réduction d'effectifs dans les sièges sociaux, dans le monde entier, y compris en France, mais dans les sièges sociaux. Il y a aussi tout un volet climat, ça fait partie des valeurs dont j'ai parlé au début. Donc par exemple, Alexandre Bompard dit que sur les 100 premiers fournisseurs de Carrefour, tous ceux qui n'auront pas en 2026 une stratégie climatique clair de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, eh bien, seront tout simplement déférencés. Carrefour ne travaillera pas avec eux. Visiblement, seuls 27% de ces 100%, donc 27 d'entre eux seraient aujourd'hui éligibles à cette exigence climatique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis aussi, un investissement qui est quand même relativement important pour produire de l'électricité. C'est-à-dire, en fait, mettre des ombrières sur les parkings, des panneaux photovoltaïques, et l'idée que ça permettrait de produire l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 450 000 habitants. C'est presque la population de Toulouse. Il y a encore d'autres annonces dans le plan d'hier. Il y a un projet immobilier en France et au Brésil. Il y a aussi l'extension du statut de franchiseur. Et ça, c'est quand même, ça a été l'un des grands virages de la stratégie d'Alexandre Bompard quand il est arrivé en 2017. Et ils vont aller vraiment, enfin, tous les magasins qui vont ouvrir seront à 90% des magasins fonctionnant selon le principe de la franchise. Et puis, il y a aussi une joint venture qui est annoncée avec Publicis pour réussir à monétiser au maximum les espaces publicitaires sur tous les sites de e-commerçants. Donc, vous posez la question, et on peut la poser comme ça, est-ce que Carrefour fait du Leclerc? Clairement, le résumé de cette histoire, c'est plus de discount face à l'inflation. Ça, il n'y a aucun problème. Après, quand Carrefour annonce Atacadão et les MDD, c'est plus du Lidl. Quand Carrefour annonce plus de franchisés, c'est plus du Leclerc. Quand Carrefour fait un deal avec Publicis, c'est plus du Amazon. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer l'histoire. Après, au sens plus global de ce qui nous a été présenté hier, j'ai trouvé que c'était vraiment une incarnation concrète, réelle, de cette fameuse fin de l'abondance qui a fait tant causer dans la bouche d'Emmanuel Macron. Il y a un côté quand même fin de l'abondance dans ce qui nous est annoncé. Moins de produits, hein, très clairement. Et puis alors, il y a un enjeu ultime qui est quand même le fait que Carrefour est une entreprise cotée. 2017, Alexandre Bompard arrive, l'action vaut 17,50. Depuis, il a considérablement amélioré les résultats, considérablement amélioré la trésorerie.
Et elle vaut 16,40.
Eh ben voilà, elle valait 16,30 hier et là elle vaut 16,48. Il y a quand même la volonté de prouver que, au-delà de fait-il du Lidl, de l'Amazon, du Leclerc, Carrefour est un business model qui mérite que les investisseurs s'y intéressent. Et c'est quand même aussi un des aspects du plan d'hier. Pour l'instant, visiblement, c'est pas l'engouement.
Bon, c'est en hausse, c'est la plus forte hausse du CAC, mais elle reste sous le cours d'arrivée. Nicolas Dose, merci beaucoup, à très bientôt. Le CAC 40, 6416 points, il perd, lui, 0,38%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin Thibaut Cosnet. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, directeur de l'offre épargne et patrimoniale du Conservateur. Et on va s'intéresser à un thème qui est dans toutes les bouches, mais qu'on n'arrive pas forcément tous à concrétiser en termes de patrimoine et d'épargne, c'est l'inflation. Déjà, l'inflation et patrimoine, comment on conjugue, comment on définit tout ça?
Alors, l'inflation, on en parle tous les jours, 6,2% estimé par l'INSEE à fin octobre, au plus haut depuis 1985. Donc ça, c'est le chiffre. Mais une bonne définition de l'inflation, c'est la définition INSEE, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Autrement dit, c'est quand on est plus riche, mais qu'on peut se payer moins de choses que quand on était...
Moins riche. Ou plus pauvre.
Ceci entraîne, effectivement, sur le patrimoine, des sujets importants. On parle beaucoup de l'inflation, l'impact de l'inflation sur le coût de la vie au quotidien, sur les salaires, mais sur le patrimoine, c'est quand même assez considérable. Cette année sera probablement une année charnière. Il faut vraiment raisonner sur son patrimoine en taux réel. C'est-à-dire ne plus regarder du tout la performance absolue d'un placement, parce qu'un placement qui rapporte du 4% face à une inflation à 6, c'est un placement avec lequel, en fait, on s'appauvrit en pouvoir d'achat, alors qu'inversement, un placement à 3% avec une inflation à 1, ça peut être un très bon placement. Et donc, par rapport à cela, raisonner en taux réel, modifier un certain nombre de comportements, ne pas se leurrer par rapport à, par exemple, la hausse de l'affichage de la rémunération du livret A, qui est passé, certes, de 0,50 au début de l'année à 2, on pourrait se dire c'est génial, mais face à une inflation à 6 et quelques, c'est quand même pas la bonne chose, et donc il faut chiffrer. Il faut se poser la question. C'est ça qui est un petit peu pervers sur l'inflation, sur le patrimoine. D'autant qu'en plus, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent nous laisser à penser que l'inflation sur moyen terme pourrait être durablement plus élevée que ce que nous avons connu au cours des 20 dernières années où là, c'était une inflation très basse.
Comme je le disais en commençant, Thibault, c'est vrai que tout ce concept, on l'a tous, entre guillemets, en tête. Depuis des semaines, des mois, on martèle l'histoire du taux réel. Mais bon, malgré tout, c'est difficile de se l'auto-appliquer, donc on va essayer d'être concret ce matin. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Alors, on est toujours dans les moyennes. Hein. J'entends déjà tous ceux qui vont hurler en disant « Ouais, mais moi, je suis pas... » Bon, ok. Mais si on prend un exemple, si on caractéristique une famille, un foyer, ce matin, français, et qu'on se dit, en 2022, qu'est-ce que ça donne?
Ça fait assez mal, en fait, sur l'épargne, principalement l'épargne de précaution. Je prends effectivement un foyer, deux parents, deux enfants, qui ont chacun des livrets A à saturation, les 22 950, des liquidités sur les comptes courants, environ 15 000 euros sur les différents comptes, et une assurance vie avec 50 000 euros de fonds en euros. C'est trois poches. Sont assurément...
C'est une situation aisée, mais pas délirante.
C'est pas extraordinaire. C'est aisé, mais effectivement, on peut connaître des patrimoines plus importants. Et là, on se focalise uniquement sur l'épargne dite prudente. Les liquidités, le livret A, le fonds en euros, on croit qu'on ne peut pas perdre de l'argent. Légitimement, on ne perd pas en capital. Ouais. Mais sur ces montants-là, donc 4 livrets A saturés, 15 000 euros de liquidités, 50 000 euros de fonds en euros, eh bien, ce foyer-là va perdre près de 8 000 euros de pouvoir d'achat sur cette épargne.
Cette année.
C'est-à-dire, si je caricature, encore une fois, par rapport au salaire médian français, c'est deux mois de salaire des deux parents. Donc, c'est conséquent, c'est très conséquent.
8 000 euros perdus de pouvoir d'achat, hein, pas...
Oui, et donc, il suffit de faire le calcul sur chacun de son côté. Encore une fois, le livret A à 2% face à une inflation à 6, du fonds en euros qui était rémunéré l'année dernière en moyenne à 1,3 moins les prélèvements sociaux, et les liquidités qui sont évidemment pas rémunérés du tout.
Du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on liquide, on bazarde tout, on dépense, on fait quoi?
Alors, si on a la certitude qu'il n'y a pas de problématique patrimoniale à moyen terme et qu'il n'y a pas de besoin d'épargne, oui, il vaut mieux consommer, puisqu'il faut quand même se rappeler que l'épargne n'est qu'une alternative à une consommation immédiate. Mais il faut quand même être conscient, je pense qu'on est tous conscients, qu'il y a quand même quelques enjeux sociaux et démographiques sur liés à l'allongement de la durée de la vie. On a des problématiques de retraite, de dépendance, un déséquilibre un peu structurel du système des retraites, d'où des réformes en cours et des véhicules d'épargne qui permettent de se constituer en complément de l'épargne à destination de la retraite. Donc, face à ces enjeux-là, on peut se dire il y a des besoins d'épargne très conséquents, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi compliqué d'épargner quand on est un épargnant plutôt prudent. Et là, en complément de ce qu'on vient d'évoquer sur juste l'année 2022, une perte de pouvoir d'achat de 2% par an, donc une inflation à 4, un livret A à 2, sur 20 ans, bah, ça fait 40% quasiment de perte de pouvoir d'achat de l'épargne prudente. D'où une nécessité, encore une fois, probablement d'utiliser cette fin d'année 2022 comme une année charnière sur l'équilibre patrimonial.
Donc ça veut dire qu'il faut un peu sortir de ses réflexes traditionnels, c'est-à-dire qu'il faut envisager son épargne autrement. Comment on fait aux conservateurs? Quel est un peu votre mantra?
Alors, il n'y a pas un mantra unique, de toute manière. Il faut assurément se faire accompagner. Parce qu'il faut probablement... Probablement pour beaucoup d'entre nous, il faut réduire un petit peu l'épargne de précaution à court terme qui sera de toute manière difficilement rémunérée au niveau de l'inflation. Il faut calibrer ça en fonction de chacun des niveaux individuels puisque chacun voit la sécurité à un certain niveau. Et tout ce qui n'est pas de l'épargne prudente ou sécuritaire doit être orienté sur des approches de plutôt moyen long terme, particulièrement face aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, allongement de la durée de la vie, retraite, etc. Là, l'horizon patrimonial de ces stratégies, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans.
On a du temps.
Donc on donne
avoir du temps.
Ça tombe bien, c'est un des slogans du conservateur, c'est donner de la valeur au temps. Et donc par rapport à ce qu'on n'a pas investi, réduction de l'épargne de précaution, on l'investit dans des enveloppes de long terme. Typiquement assurance vie, PER ou autre. Et là, il faut faire confiance aux marchés financiers. Les marchés financiers, globalement, sur longue période, des unités de compte. Les actions sur longue période sont quand même globalement rémunératrices. On retrouve un petit peu de jus dans les placements obligataires depuis le début de l'année, donc autant en profiter. Mais ça, c'est pour des épargnants qui acceptent de la volatilité des marchés financiers. Nous, on aime bien aussi proposer à nos clients des produits qui permettent de ne pas avoir à choisir son camp entre la hausse et la baisse des marchés financiers via des produits structurés, en quelque sorte faire une double opportunité, que les marchés actions baissent ou que les marchés actions montent. On peut faire des produits qui sont performants en unité de compte assurance vie. Et enfin, c'est opter pour des stratégies qui sont gérées en différentiel d'inflation. Au conservateur, on a la chance d'avoir un produit un petit peu unique qui s'appelle la tontine, qui depuis 1844 applique des modalités de gestion de long terme et est gérée sur longue période en différentiel d'inflation, ce qui permet historiquement d'avoir entre plus 3 et plus 5% d'inflation par an. Donc entre de l'épargne prudente qui
produit qui a déjà connu des grandes périodes d'inflation, donc c'est pas
effectivement
c'est appliqué quoi.
C'est des tontines qui ont évidemment connu la dernière période inflationniste 1973-1985 et qui malgré ces périodes-là arrivaient à procurer plus 3 à plus 5% au-dessus de l'inflation par an sur longue période, tout en restant un produit d'épargne prudent. Donc on troque pas son épargne prudente contre je mets tout sur le rouge. Non, on reste dans un véhicule
prudent,
complémentaire, c'est pas du spiel et c'est complémentaire à d'autres stratégies.
8000 euros, c'est ce que pourrait perdre un foyer moyen en 2022 en termes de pouvoir d'achat avec une épargne traditionnelle et prudente. Merci beaucoup Thibaut Cosnet.
Merci Cédric.
Pour le conservateur, dans un instant un coup d'œil sur les marchés et puis après on change un peu de typologie.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Le marché et le CAC 40, 6416 points. Il se replie de 0,38%. C'est un petit peu pareil d'ailleurs en Europe, moins 0,5% pour l'Eurostock 50. Carrefour, plus forte hausse. Eurofins, plus forte baisse. L'Eurodoll est à 1,0065.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Jean-Marc Jacobson. Bonjour.
Bonjour.
Pour Realty, vous êtes spécialisé dans les tokens. On est dans les cryptos, c'est ça? Je dis pas de bêtises?
Non, on est sur blockchain, effectivement. Des investissements sur blockchain en token.
Et donc, quelle est la différence entre investir dans une crypto devise, crypto actif, les fameux Bitcoin et consorts, et dans un token ou dans un NFT, il y a des différences?
Oui, tout à fait. En fait, un token à la base est une unité de compte qui existe sur un registre que l'on veut décentraliser, donc la blockchain. Le tout premier token cryptographique était le Bitcoin, qui se voulait être une monnaie, d'où le terme crypto-monnaie. Ça voulait remplacer la monnaie, donc ce token devait avoir les caractéristiques d'une monnaie, c'est-à-dire être fongible, être transmissible, être une réserve de valeur, être fractionnable. Ce que est le Bitcoin, par exemple, et le Litecoin et les crypto-monnaies qui ont suivi. Le token lui-même, on s'est rendu compte rapidement que la monnaie était qu'une application de la blockchain, qu'il y en avait d'autres. Et est survenu Ethereum, qui a permis le développement des contrats intelligents, qui ont permis d'assigner à cette unité de compte, donc à ce token, d'autres choses. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, l'or. Par exemple, etc. Qu'est-ce qu'on assigne? Qu'est-ce que ce token, cette unité de compte, exprime ou représente? De par là, est survenu plein de différentes possibilités d'investissement, dont Realty, qui propose donc la fractionnalisation immobilière. Et c'est devenu donc ce qu'on appelle des asset tokens, ou des security tokens, quand ils expriment des valeurs mobilières. Il y a aussi d'autres types de tokens, des tokens utilitaires, etc., dont on ne va pas rentrer aujourd'hui.
Est-ce que ce type d'investissement immobilier, donc,
absolument,
est accessible à tous?
Le but de la blockchain et de Realty est de justement démocratiser l'investissement immobilier. Il est accessible à tous à partir de 50 euros chez Realty. On peut commencer à participer dans un investissement immobilier en recevant régulièrement les distributions nettes qui proviennent de cet immobilier et en surtout en le rendant liquide, extrêmement liquide. On peut acheter le lundi, profiter de la rentabilité pendant la semaine et le revendre le lundi d'après, sans perte.
D'accord.
Donc c'est vraiment sans perte. Donc ça fait, enfin, sans perte. J'entends par là selon la valeur de l'immobilier.
Ah oui. Il y a,
donc l'immobilier lui-même est le fondement de la valeur de ce token.
Mais si l'immobilier baisse,
c'est un marché.
D'accord. Non mais
marché.
Du coup, combien ça rapporte? Est-ce qu'on peut tout le temps espérer de la plus-value? De quel ordre? Enfin.
Ça rapporte exactement ce que l'immobilier dans lequel vous avez investi va rapporter. C'est-à-dire, si vous avez investi dans de l'immobilier à rendement, donc avec plus haut risque normalement, vous allez avoir ce rendement-là, s'il est bien géré. Donc, les paramètres d'investissement immobilier s'appliquent. Location, dans le temps, parce que vous avez investi au bon moment, est-ce qu'il est bien géré? Donc, l'avantage de la tokenisation, c'est que ça vous permet de participer dans des investissements qui ont été faits par des professionnels, sans vous à vous tracasser ou alors même à avoir besoin de beaucoup de liquidités ou d'attendre ou d'avoir un gros montant pour investir.
S'il faut trouver un comparatif, c'est quoi? C'est une forme de part de SCPI 2.0?
Ça serait plutôt les SCPI 3.0. C'est beaucoup plus liquide qu'une SCPI puisqu'on peut acheter et vendre sur un marché secondaire très actif et un marché primaire aussi. On peut aussi rentrer beaucoup plus facilement à partir de 50 euros, voire moins dans certains cas.
On sait vraiment, parce que souvent c'est la question que nous posent d'ailleurs les épargnants. Ils disent, ok, vous êtes sympa, la SCPI c'est super, on a bien compris le principe, on co-achète à plusieurs, entre guillemets, je simplifie à l'extrême, un immeuble de bureau et puis on en perçoit une part des loyers. Mais on ne sait pas où c'est. Et les fournisseurs, les spécialistes de la SCPI disent, si vous achetez une part dans telle SCPI, vous savez très précisément quels sont les immeubles possédés par la SCPI. Vous aussi c'est pareil, si j'achète une petite part comme ça à 50 euros, je sais quel morceau de la façade, de quel immeuble
C'est encore plus granulaire. Vous savez précisément quelle part, de quelle propriété vous avez acheté. Il y a une série de tokens par propriété.
D'accord.
Donc on va dire 1000 ou 2000 tokens. Et cette propriété est détenue par une société qui est inscrite sur le registre foncier. Et ce qui est tokenisé chez Realty, ce sont les actions de cette société.
D'accord. Et il n'y a pas d'arnaque possible, il n'y a pas de risque inconsidéré, à part la fluctuation du marché immobilier?
Les arnaques, il y en a comme dans toute industrie. On n'a pas attendu la blockchain pour que ça existe. Maintenant, dans les nouvelles technologies, quand quelque chose émerge, souvent, de mauvais acteurs sont les premiers à apparaître. Ça fait 12 ans maintenant que la blockchain existe, on les a vus passer. Il y a encore des arnaques, évidemment, mais quand le projet est sérieux, le seul risque réel qu'il y a, c'est le risque immobilier lui-même, le sous-jacent. Vous avez parlé de NFT aussi. Quelle est la différence entre un token, un asset token, ou un security token, et un NFT? En fait, c'est la même technologie. C'est la même chose, simplement, le token NFT a un numéro. Donc, il devient indivisible. Il est unique. On enlève donc un des paramètres du token qui est la fongibilité ou la fractionnalisation. Je vous donne un exemple, un diamant. Un diamant de 10 carats, c'est transmissible, c'est une valeur de réserve, c'est durable. Mm-hmm. Par contre, un token de 10 carats représente une somme qui n'est pas égale à 10 diamants de un seul carat. Et tout comme un diamant de 1 carat n'est pas pareil à un autre. Il y a la coupe, la couleur, la clarté qui rentre en jeu. Cette unicité fait en sorte que ça s'appelle un NFT. Ça s'applique à l'art, ça s'applique à beaucoup de choses. Et à des titres.
Realty et Jean-Marc Jacobson, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Le marché parisien qui reste pour le moment en petite baisse, on va en parler dans un instant depuis une salle de marché. Et puis, regard croisé à suivre sur BFM Business. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site.